Est-ce qu'on peut continuer à clamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Dieu est bon et il est bon de compter sur lui. Il est bon de se retrouver dans sa présence pour le louer, pour l'adorer, mais aussi pour l'écouter. Nous voulons prier quelques minutes. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier pour que tu parles à nos cœurs. Dépose quelque chose de nouveau sur les tables de nos cœurs. Dépose quelque chose de nouveau qui va nous accompagner ici dans le temps et encore plus loin dans l'éternité. Que ta parole soit comme une lumière qui est répandue sur notre sentier, sur notre chemin. Que ta parole soit une nourriture pour nos âmes, pour nous redonner la force de marcher, la force de tenir. Que ta parole nous délivre, que ta parole nous change. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu qui nous donne sa grâce et qui nous permet d'être là. Toute notre gratitude, notre reconnaissance vis-à-vis de notre pasteur, le pasteur Joseph Bondo, qui, une fois de plus, nous renouvelle sa confiance et nous permet de nous tenir derrière cette chair qui est la sienne. Nous voulons aussi exprimer toute notre gratitude à vous tous qui êtes là, parce que si vous n'étiez point présent, eh bien, on ne s'adresserait qu'aux chaises et aux bancs vides. Merci parce que vous êtes là. Et merci aussi à vous parce que vous allez m'aider à saluer votre voisin de gauche et à saluer votre voisin de droite avec un large sourire, parce que vous aurez besoin de ça pendant le message. Regardez bien votre voisin. Malheur à vous si vous êtes de la même maison et vous êtes chamaillé en venant, parce que pendant qu'on sera en train de prêcher, vous serez obligé de vous réconcilier. Donc, essayez de trouver un moyen pendant les premières minutes de la prédication pour vous montrer gentil, parce que je vous dis, vous en aurez besoin. Alléluia. Nous voulons lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, les versets 2 jusqu'au verset 4. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, ce sera la base même de notre enseignement de ce matin. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je répète le verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience, à son tour, c'est moi qui ajoute, accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Nous allons prendre un deuxième texte dans l'épître de Paul aux Romains, son 12e chapitre, et au verset 12. Romains 12, verset 12. L'apôtre écrit aux Romains en disant « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Amen. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions, pendant les quelques minutes consacrées à la parole, que nous puissions étudier ensemble, regarder dans quelques versets ici et là de la Bible, quelque chose de particulier que le Seigneur nous donne ou nous donne comme interpellation, c'est la patience. Nous l'avons intitulé « La patience, attendre pour atteindre ». La patience, deux points, attendre pour atteindre. Dans la vie, il y a beaucoup d'hommes et des femmes qui n'aiment pas attendre. Nous rencontrons dans notre société justement des hommes et des femmes qui n'aiment pas attendre. Nous avons dans nos familles des enfants, surtout quand ils sont tout petits, ils n'aiment pas attendre. Aucun enfant n'est naturellement patient, ce qui signifie que naturellement l'homme, depuis son jeune âge, depuis qu'il est né, depuis que vous avez 0 ans, 2 mois, 4 mois, vous n'aimez pas patienter. Nous n'avons pas été habitués à patienter. Patienter, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose de pénible, c'est même quelque chose que nous faisons par contrainte. L'homme, depuis ses premiers jours quand il est sur terre, il se comporte comme un être qui n'aime pas patienter. Il aime posséder immédiatement. Encore aujourd'hui,
dans cette société où tout va si vite, dans cette société qui a été révolutionnée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Lorsque quelque chose se passe ici, à l'instant, quelqu'un qui se trouve à Dallas est au courant. Aujourd'hui, tout va vite, et tout va si vite, et que vous, si vous n'avez pas encore compris que tout va vite, mon frère, vous risquez d'arriver en retard. Je me souviens, j'ai dit ça pour rigoler, encore des années, 20-30 ans en arrière, alors que nous étions dans des régimes qui, par moments, utilisaient des contraintes sur l'information. Je me souviens de ces années, ceux qui sont âgés comprennent cela, on prenait des revues qu'on brûlait, on devait les brûler à l'aéroport pour que ça n'entre pas dans le pays. Parce que le pouvoir politique d'antan craignait que l'information arrive. Mais je me demande aujourd'hui, qu'aurait fait ce tel pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, on prend même la photo dans la guerre. Vous avez tous assisté à ces deuils de cette journaliste d'une chaîne que je nommerai pas, qui est décédée parce qu'elle était allée filmer en guerre. Tout petit, je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un devait quitter chez lui pour aller filmer une guerre. Je me disais, mais il peut mourir, il n'a pas une arme, il n'a rien, mais il veut filmer, il veut apporter la nouvelle. Et justement, les risques de cette génération où tout va vite, le four à micro-ondes où on appuie un minuteur et puis en 4-5 secondes, ouf, tout est prêt. Le train à grande vitesse, pour ceux qui ont connu encore, parce que cela n'est plus commercialisé, la Concorde, cet avion ultrasonique qui volait à une vitesse supérieure à la vitesse du son, qui pouvait réduire en moitié de temps les durées des voyages, mais qui faisait exploser des aéroports parce que quand il descendait, il avait tellement des vibrations. Les gens se souviendront et se souviendront encore des choses que la technologie nous apporte. Et justement, nous, chrétiens de ce temps moderne, nous vivons dans un monde où tout va vite. Nous vivons dans un monde où tout nous obéit. Nous avons tous, je suis sûr, ici dans cette assemblée, tout le monde ici a au moins une télécommande. Donc si nous sommes à 3000 personnes, il y a dans nos maisons, si nous revenons ici, nous apporterons 3000, au moins. Pour ceux qui ont la télécommande de la télé, du décodeur, je ne sais pas, des autres appareils, peut-être qu'il y en a qui ont 10. Donc on peut même avoir 30 000 ici. C'est pour signifier que nous sommes quelque part préparés à appuyer des boutons et avoir des solutions. Et nous venons à l'église, nous venons à Dieu et nous prions. Et cette fois-là, nous sommes en face de quelqu'un qui, lorsque nous sommes en train de lui demander des choses, il ne se comporte pas comme notre monde moderne. Il ne nous les donne pas toujours directement. Patienter. Patienter, ça signifie attendre. Et aujourd'hui, particulièrement, j'aimerais insister sur le fait que nous attendrons et nous devons attendre parce que l'attente est importante avant l'atteinte. Avant d'atteindre vos objectifs, vous devez apprendre à attendre. Avant d'atteindre les buts pour lesquels vous travaillez, avant d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés, Dieu nous rappelle en ce jour que nous devons attendre. Si vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, vous comprenez déjà, Dieu nous demande d'attendre. Ah, est-ce que vous pouvez changer de voisin? Dites-le avec conviction. La paix commence à revenir, même si vous n'étiez pas parlé le matin. Alléluia. Bien-aimés, la première bonne nouvelle que j'ai pour nous, c'est que Dieu, notre Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu patient. Avant que je n'aille loin et que je n'aborde quelques sujets que ce soit, je me dois d'insister que le Dieu de la Bible, le Dieu qui nous a conviés en ce lieu, est un Dieu patient. 2 Pierre chapitre 3, les versets 9 et les versets 15 nous disent que le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Dieu ne traîne pas pour accomplir ses promesses. Dans le cas de ce verset, il est parlé du retour de Christ, de la fin de toutes choses. Certains se disent, ah non, mais Dieu, depuis qu'on dit Jésus revient, Dieu dit qu'il va mettre fin à ce système, à ce monde, mais pourquoi ça n'arrive pas? Bien-aimé, Dieu ne tarde pas, mais il y a une faculté extraordinaire en Dieu, c'est que nous servons un Dieu patient. Dieu est patient. Il est tellement patient qu'il peut attendre pendant 15 ans, pendant 20 ans. Je dis souvent que Dieu a le pouvoir de tout changer en une seconde, mais il peut attendre pendant 25 ans avant de le faire. Dieu peut tout changer, mais Dieu est patient parce qu'il a ses calculs, il a ses priorités et surtout, il nous dépasse en sagesse et en intelligence. Pendant que moi je suis en train de demander le couteau, alors que je suis un tout petit enfant de 3 ans, mon père ou ma mère me regarde et dit « tu risques de te blesser ». Mais le même enfant, quand il aura 15 ans, quand il aura 20 ans, il peut même commencer à acheter des couteaux. Parce que le parent sait, maintenant, tu sais comment t'en servir. Il y a des bénédictions, il y a des choses que nous demandons à Dieu. Il y a des choses pour lesquelles nous pleurons, nous entrons en retraite. Nous faisons des jeûnes, nous faisons des veillées, de prières. Mais Dieu ne les donne pas, parce qu'il ne nous aime pas. Tout simplement, parce que Dieu veut que nous apprenions la patience. Mais finalement, c'est quoi la patience? Le dictionnaire Larousse définit la patience comme étant l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés et à supporter les défaillances, à supporter les erreurs. Si vous écrivez, écrivez, c'est important. C'est une aptitude à ne pas s'énerver. Donc pour le dictionnaire Larousse, la patience est liée à la capacité de quelqu'un qui ne s'emporte pas facilement, qui ne s'énerve pas facilement, qui peut supporter les défaillances, qui peut supporter les erreurs. C'est aussi la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Il n'est pas dans l'agitation. Et troisièmement, c'est la persévérance, la constance à faire quelque chose ou à poursuivre un but. Un objectif, la constance, la persévérance à faire quelque chose. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, la plupart des termes grecs traduits par patience dans le Nouveau Testament sont des termes actifs et forts. Un des termes qui revient souvent, c'est le mot grec makrotoumia. Makro comme macro-finance, makro pour dire quelque chose de grand. Makrotoumia signifie littéralement quelque chose ou quelqu'un qui a une grande capacité d'attendre, une grande capacité de supporter, une grande capacité d'accumuler. Vous comprenez donc, aujourd'hui en parlant de la patience, nous parlerons de la patience dans trois directions. La patience de Dieu pour les pécheurs, la patience que Dieu a pour nous. Nous parlerons de la patience du chrétien dans l'attente de la réalisation des promesses qu'il a reçues de Dieu, c'est-à-dire dans sa relation verticale avec Dieu, mais nous parlerons aussi de la patience dans sa dimension horizontale, la patience que nous devons avoir envers notre prochain. C'est pour ça que je rappelle, aujourd'hui, nous allons encore nous interpeller à être patients envers nos frères, patients avec nos sœurs, patients avec ton fils, patients avec ta fille, patients avec ton époux, avec ton épouse, patient, avec tes parents. Amen. Mais la patience dont nous parlons n'est pas un synonyme de paresse. Nous ne sommes pas venus prêcher ce matin que comme on est patient, on ne va plus rien faire. On va croiser les bras, on est patient. Voilà, je suis patient, je reste assis, je suis patient. La patience n'est pas non plus une sorte de manque de détermination. Quelqu'un qui n'est pas déterminé à aller au bout de ses projets, au bout de ses études, au bout de ses relations. Il y en a qui, même dans les relations sentimentales, à peine commencées, ils vont de fiancé à fiancé. Des fois, vous allez remarquer que le problème de fond, ça n'a été qu'un manque de patience. Je me souviendrai toujours de ce qu'un homme m'a dit Un homme, un ami m'a confié, il est venu me dire, écoute, je suis marié, ça fait 9 ans, mais je regrette sincèrement pourquoi je me suis marié avec cette femme. Je lui ai dit, mais comment tu peux dire ça? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, mais toi tu es enfant de Dieu. Il m'a dit, je suis enfant de Dieu, mais ce n'est pas la femme que je devais épouser. Je me suis emporté, j'ai pris une crise de colère parce que ma fiancée de l'époque avait commis une erreur. Aujourd'hui j'ai grandi, je me rends compte, j'aurais vraiment pu lui pardonner. Mais je m'en veux tellement. Je suis dans mon couple, mais j'arrive pas à dire cela à ma femme. Je lui dis, vas-y, va dire à ta femme, parce que ça sert à rien de tenir des secrets pareils et de vivre chaque jour avec le sentiment que les meilleurs moments de ta vie sont passés. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible que vous puissiez perdre tout à cause d'une vie dans l'impatience, à cause d'un manque de patience. Un homme a écrit en disant qu'un moment de manque de patience peut vous faire regretter pendant 1000 moments. Vous pouvez, à cause d'un moment de manque de patience, regretter 1000 moments de votre vie. Peut-être que là où vous êtes aujourd'hui, peut-être que là où vous en êtes aujourd'hui, vous êtes le résultat de l'impatience. Vous avez couru derrière ceci ou cela. La patience n'est pas non plus la procrastination qui est cette tendance à vouloir toujours repousser pour demain. On va faire ça demain. Ah non, les gens qui procrastinent, ils sont jamais pressés. Ah non, vous connaissez ces gens de personnes. Ah non, on va faire demain, non. C'est pas. Et demain, c'est demain. Les Chinois, quand moi j'étais petit, je vois plus tellement ça. Ils avaient l'habitude d'écrire une phrase très rigolo. On écrivait boîte postale, Yakalobi. Ça signifie, viens demain. Donc c'était un message codé pour dire, c'est demain que nous ferons les prêts. Donc si tu veux venir emprunter, reviens demain. Et demain, quand tu viendras, on a encore écrit demain. Donc le surlendemain, quand tu viens, on a toujours écrit demain. Et finalement, c'est un lendemain qui n'existe pas. Ainsi sont les gens qui reportent toujours à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. La décision de suivre Dieu, la décision de mettre du sérieux dans ta vie, de mettre du sérieux dans ton couple, de mettre du sérieux dans ta relation, de mettre du sérieux dans ta famille, ne repousse pas cela. Amen. N'oubliez pas, nous parlerons de ces 3 directions. Donc à chaque fois que nous parlerons de patience, essayez de voir la patience du côté de Dieu, Dieu envers nous, la patience de nous par rapport à Dieu, aux promesses que nous attendons, dont nous attendons la réalisation, et puis la patience de manière horizontale dans notre relation avec le prochain. Amen. J'aimerais partager quelques bénéfices de la patience, parce que c'est bien de vous parler de patience, de vous dire ceci sur la patience et cela. Le premier des bénéfices, que je vais mentionner, que la patience nous donne, c'est la sécurité entre le temps de la promesse et le temps de l'accomplissement. Vous savez, les promesses sont faites pour être accomplies. Si Dieu nous donne une promesse, c'est que Dieu veille sur sa parole et va tout faire pour que cette parole s'accomplisse. Maintenant, la patience, quel est son rôle dans tout ça? Habacuc, chapitre 2, le célèbre texte que nous connaissons, le verset 3, nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Mais écoutez la partie que nous n'aimons pas souvent. Est-ce qu'on peut la lire ensemble, à l'unisson? Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Nous aimons souvent dire que la prophétie, le temps est fixé pour son accomplissement, elle marche vers son terme. Là, nous crions « Alléluia !» On dit « Elle ne mentira pas !» Nous abattons les mains. Mais le même Dieu qui a dit que la prophétie ne va pas tarder à s'accomplir, c'est le même Dieu qui ajoute et il te dit « Mon fils, ma fille, si elle tarde... » Attends là, est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, si ça tarde, attends. Parce que la sécurité de la promesse jusqu'au temps de l'accomplissement, vous ne pouvez l'obtenir que si vous êtes patient. Si vous n'êtes pas patient, ce verset ne va pas agir dans votre vie. Les gens qui ont développé la patience, ils vivent sous ce verset. Les choses n'ont pas peut-être changé depuis que vous priez, depuis que vous demandez ceci à Dieu. Vous avez tenté cela, vous avez tenté ceci, cela, vous avez fait telle ou telle autre chose. Mon frère, ma sœur, je n'ai pas une solution extraordinaire à vous proposer. Je vous propose tout simplement, si ça tarde, attendez. Amen. Deuxième bénéfice de la patience, c'est que la patience nous aide à améliorer notre relation verticale. Par relation verticale, comme ça, on sous-entend notre relation avec Dieu. Les gens qui sont patients, ce sont les gens qui vivent en bon terme avec Dieu. Parce que la patience va vous maintenir dans la crainte de Dieu. Il y a des gens qui ont cédé à l'impatience et qui ont touché à des fétiches. Ils sont allés voir cet ami qui est dans l'occultisme, qui lui a dit, si tu veux telle promotion, tu auras besoin de ceci, ou tu auras besoin de cela. Il y a quelques jours de cela, un homme de Dieu, un ami, était en train de nous raconter une histoire. Comment est-ce que les gens, à l'époque où il était encore très jeune, on va dire, en finissant l'université, sont venus lui faire une proposition, lui a dit, écoute, si tu veux atteindre tel sommet de la vie, on a une formule, on va te faire entrer juste chez quelqu'un, dans une maisonnette, on va éteindre les lumières, et puis tu vas juste faire une petite incantation, et ta vie va changer. Combien n'ont-ils pas cédé à cela? Peut-être vous qui êtes là ce matin, vous savez que vous avez cédé à cela, vous savez à quoi vous devez vos richesses, à quoi vous devez ce que vous avez, à quoi vous devez la bonne vie ou l'apparente bonne vie que vous présentez, mais vous êtes obligé de ne pas dormir la nuit, vous êtes obligé de dormir d'un côté, vous êtes obligé d'aller ramper dans une bicoque parce que vous voulez maintenir votre niveau de vie. Le problème derrière, c'est parce que vous êtes tout simplement impatient. L'impatience fait faire des bêtises, mais quelqu'un qui vit dans la patience, il reste dans la volonté de Dieu. Le verset clé que nous avons lu, le tout premier verset de Jacques, nous a dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. Dieu recourt souvent à l'épreuve parce que c'est dans cette école-là que notre patience va être formée et même, je vais utiliser un mot plus technique, va être formatée. Dieu va donner une forme à notre patience dans les épreuves. Alléluia. Ne vous attendez pas à des épreuves de footballeur si vous êtes un athlète de natation. Ne vous attendez pas non plus que Dieu vous forme comme boxeur en vous faisant faire des entraînements des gens qui font la natation. Si tu es boxeur, Dieu va amener dans ta vie les niveaux des preuves et des niveaux de patience équivalents à l'appel de Dieu pour ta vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les niveaux d'adversité que nous avons dans la vie sont proportionnels à ce que Dieu attend de nous. Dieu sait que là, je suis en train de former un soldat qui va aller à la guerre, qui va être capable de sauter en parachute à partir des milliers de kilomètres. Il aura une formation particulière que quelqu'un qui est toujours ici, dans les coins de rue avec un sifflet. Ce n'est pas pour minimiser, mais chacun a son niveau d'entraînement. Si vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, chacun a son niveau d'entraînement. Et c'est pour ça que Dieu, des fois, quand nous le regardons, dit, Seigneur, tu es trop dur avec moi. Regarde même lui là, regarde même cette fille là. Elle sait mes conduites, mais pourquoi elle s'est mariée avant moi? Seigneur, regarde telle personne, il travaillait même pas bien à l'université, mais comment c'est lui qui a trouvé le travail avec mon frère? Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. N'envie pas la bénédiction de l'autre. Vous savez, quand vous allez dans les chantiers, lorsque les gens commencent à construire, ils mettent souvent une petite bicoque dans laquelle on va entreposer les histoires. Vous savez, le temps pour construire cette bicoque-là, c'est combien? C'est des fois 2 jours, 3 jours maximum, bicoque fini. Mais la maison elle-même, ça va prendre du temps. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu est en train de construire chez toi. Dieu est en train de construire un étage. Dieu est en train de construire un étage. Alors sois patient. Mais toi, tu es en train de te comporter comme celui qui veut la bicoque. Et si la mamou, Seigneur, que ça finisse vite, que j'entre. Ah, tu auras une maison à un niveau avec une chambre égale salon. Mais si tu es patient, tu vas laisser Dieu monter les niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Donc si nous sommes patients, nous améliorons notre relation avec Dieu et nous restons dans la foi. Les choses ne nous troublent pas. Nous restons calmes. Troisième bénéfice de la patience bonifie nos relations horizontales, les relations avec notre prochain. La patience rend bonnes les relations horizontales. C'est là que je dois insister avec ce verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 14. 1 Thessaloniciens 5, 14. Vous allez me supporter, on va lire beaucoup de versets. Déjà, vous avez lu beaucoup, il reste peu. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles. Et l'apôtre Paul conclut en disant, usez de patience envers tous. Le Seigneur nous appelle à cela. Usez de patience envers tous. Être patient envers mon prochain. C'est vrai qu'il fait de bêtises. C'est vrai qu'elle fait de bêtises. C'est vrai qu'il a mal fait ceci ou cela. Mais le Seigneur nous demande d'être patient. Parce que ce n'est pas en un jour forcément que la personne va changer. Combien de couples ne souffrent-ils pas parce qu'il y a l'impatience? L'homme est impatient. Impatient de supporter les erreurs de sa femme. La femme est impatiente de supporter les erreurs de son mari. Et le couple s'en va en vrille. Le couple met fin à son histoire. Combien des familles ne sont-elles pas détruites à cause de l'impatience? Et combien de relations d'amis, d'amitié ne finissent-elles pas de manière précoce à cause de l'impatience que moi j'appelle l'assassin des destinées, l'assassin de l'amitié, l'assassin de tout ce qui est complicité entre personnes proches? Bien-aimé, si vous êtes assis à côté de quelqu'un que vous connaissez, est-ce que vous pouvez lui dire, sois patient envers moi? C'est là où je vous attendais, au fait. Vous, maintenant, qui, le matin, là, quand vous êtes sortis, ça n'allait pas. Vous avez l'occasion de vous réconcilier. Ah, est-ce que vous pouvez le faire maintenant avec un sourire? Dis, chérie. J'ai dit, merci, vous êtes avec votre femme. Chérie, sois patient avec moi. Non, faites-le. Vous savez, si vous n'êtes pas accompagné de quelqu'un qui est patient avec vous, vous ne pourrez même pas tenir un jour de mariage. Oh, les jeunes, vous qui regardez le mariage de loin, vous qui pensez que le mariage c'est la belle robe, la jolie Mercedes et les fleurs, vous qui pensez que le mariage c'est d'avoir la jolie robe que vous portez là, vous savez pas vous mettre souvent quand vous avez ça. Vous qui pensez que le mariage c'est ça, j'ai une nouvelle au-dessus de celle-là pour vous dire, le mariage c'est un terrain de patience. Si vous rencontrez un couple qui a fait 40 ans de mariage, c'est 40 ans de patience. Si c'est 10 ans de mariage, c'est 10 ans de patience. Si c'est 10 jours de mariage, c'est 10 jours de patience. En tout cas, moi je bénis Dieu pour ma femme qui me supporte, qui a patienté. En tout cas, là où elle est assise, je lui dis merci. Elle m'a patienté pour un homme comme moi. Amen. C'est pour ça que dans la vie, lorsque vous cherchez le conjoint, ne regardez pas seulement l'argent. Regardez comment ça vous dit, est-ce que ce monsieur-ci va me supporter? Est-ce que cette femme-là va me... Alléluia! La patience nous aide à bonifier nos relations, à vivre bien dans la société. Quelqu'un fait des erreurs, c'est pas que je suis tolérant, dans une tolérance déviationniste. Non. Mais je lui donne le temps. Nous avions dit, la patience est la capacité à supporter ce qui est négatif. Supporter. Donner le temps à l'autre. Dire, ok, c'est bon. On va lui donner le temps de s'améliorer. Je dis merci à Dieu pour les gens qui ont été patients envers moi. Ah oui, ah oui. Les gens qui m'ont supporté, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les choses de la vie, je vais dire professionnelle. Aïe, 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 aïe. Je me souviens, à l'époque, j'avais commencé à travailler. Je travaillais dans une société. Dans mon travail technique, je devais faire des installations et j'ai tout bousillé, je vous dis. J'avais à peu près 40 machines installées, j'en ai bousillé deux. Parce que, en étant trop jeune et non, n'ayant pas d'expérience, juste pour ce qu'on appelle en français un sélecteur de voltage. Les équipements venaient des États-Unis. On avait laissé ça à 110 volts. À vrai dire, quand je dis j'ai brûlé, c'est pas moi, mais c'est moi qui étais avec l'équipe. Et dans la précipitation, quelqu'un a dit, ah, branchons! Et les boîtes d'alimentation étaient en train d'exploser les unes après les autres. Bam! 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 Quelqu'un a dit, arrêtez! Et la personne qui m'employait m'a regardé. C'est comme vous avez fait une bêtise. Vous-même déjà, vous avez un visage de quelqu'un qui a fait commis une bêtise. Et là, il suffit juste qu'il me pose la question, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse l'arranger? Je lui ai donné la solution et Dieu merci, on a pu le réparer. Je dis merci à ces personnes-là. Je ne saurais pas raconter ma vie et toutes les fois où les gens m'ont supporté, où les gens m'ont donné l'occasion de me corriger. Les gens m'ont donné l'occasion de sortir. C'est vrai que la première fois, je n'avais pas bien fait. Et ont été habitués dans une cellule de prière où il n'y avait que des jeunes gens, il n'y avait que des enfants de mon âge, j'avais 15, 16 ans à l'époque. Je me souviens encore de mon responsable de l'époque, le pasteur Amani, qui est aujourd'hui notre pasteur à la borne Lubumbashi. Il organise un moment de prière avec et on a une autre cellule dans le quartier où j'habitais, où il y avait beaucoup plus des parents. On est ensemble et c'est moi le modérateur et vous imaginez, je passe devant. Je dis, les amis, nous allons nous lever. Les amis, je ne faisais que dire les amis, à la fin, le responsable m'appelle, me dit, Rocher, comment tu peux appeler toutes ces mamans, toutes ces papas? Mais c'est de l'impolitesse notoire. Ah, j'ai dit merci à Dieu pour les gens qui ont usé de patience. Ça ne l'a pas empêché de me remettre encore au programme. Souvent, en tant que responsable, quand quelqu'un fait des bêtises, on dit, oh, on va plus les classer. Merci à ceux qui nous ont supportés. Merci à ceux qui sont patients envers nous. Cela nous oblige à notre tour à être patients envers les autres. Patients, oui, patients. Patients. Que dirais-je du pasteur Verdon qui m'a laissé prêcher ici à une veillée de prière, j'avais à peine 24 ans. Je me souviens ce soir-là, il était en train de sortir, il m'a appelé là au dehors, il me dit, fils, je suis en train de partir, c'est toi qui restes le pasteur de l'église. Sois responsable de tous les mots qui sortiront de ta bouche. Ah, il avait des phrases. Hein. Il dit, donc, tout ce que tu vas dire, fais attention. Et 24 ans. La patience. La patience donne à quelqu'un le temps de s'améliorer. Si vous êtes patient avec votre ami, votre femme, votre mari, vous lui donnez l'occasion de s'améliorer. La patience, au fait, une occasion de lui dire, je sais que tu n'es pas parfait, mais je te donne l'occasion d'essayer à nouveau. Alléluia. Un homme a écrit, la patience envers les autres, c'est l'amour. La patience envers soi-même, c'est l'espoir, et la patience envers Dieu, c'est la foi. La patience envers les autres. Mon frère, quand nous finirons ce culte et que nous serons en train de prier, n'oublie pas de prier pour que tu sois de plus en plus patient envers les autres. Quatrième bénéfice de la patience, et ce sera l'avant-dernier que je donnerai, c'est l'héritage de la vie éternelle. La patience nous donne d'hériter la vie éternelle. Matthieu 24, les versets 12 à 13 nous disent « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dans le Nouveau Testament, la notion de patience est presque toujours attachée à la notion de persévérance. Matthieu 24, versets 12 à 13. « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Bien-aimé, ce n'est pas le fait de venir à l'église comme ça, ce n'est pas le fait d'appartenir à une église quelconque, ou vous qui nous suivez dans les médias, ce n'est pas le fait de vous proclamer que vous êtes de telle ou telle appartenance qui va vous donner la place au ciel. Le ciel, c'est pour des hommes et des femmes qui ont de la patience. Parce que pour persévérer, il faut avoir de la patience. Il faut savoir attendre. Alléluia. Je me suis toujours posé la question, pourquoi nos amis médecins ont trouvé un mot si dur pour nous traiter quand nous allons à l'hôpital? Et vous connaissez ces mots. Ces mots est patient. Ils nous appellent des patients. Donc nous tous là, ils nous obligent à être patients. Pour eux, si quelqu'un vient à l'hôpital, il ne doit pas se précipiter. Tu viens, tu t'assois, tu dois être patient. Parce que vous êtes nombreux, mais chacun aura son tour. Alléluia. La notion d'attendre est très importante pour l'héritage de la vie éternelle. Nous disons qu'il faut savoir patienter, il faut savoir attendre pour atteindre, et même pour atteindre la vie éternelle. Nous avons besoin de la patience. Les gens viendront te proposer telle autre chose. Les gens vont te dire, non, tu es aussi trop chrétien, essaie un peu de sortir, hein, essaie de faire ceci ou de faire cela. Combien de personnes ne se sont-ils pas dévoyés, ne se sont-ils pas écartés de la voie du Seigneur parce qu'il leur a manqué de la patience. Dernier bénéfice de la patience, cinquième, c'est la formation du caractère de Christ en nous. Par la patience, le caractère de Jésus se forme en nous. 2 Pierre, chapitre 1, les versets 5 à 8, nous dit qu'à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science ou la connaissance. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Et dans Galates 5, le verset 22, lorsque l'apôtre Paul parle du fruit de l'Esprit, il dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Ensuite, il ajoute la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc la patience est quelque chose de tellement important que cela figure parmi les choses que le Saint-Esprit vient faire en nous lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Lorsque nous sommes convertis, nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi l'amour. Seigneur, nous faisons des prières, donne-moi la joie. Seigneur, donne-moi la paix. Bien-aimés, prions aussi, Seigneur, donne-moi la patience. C'est la manifestation du caractère de Jésus-Christ en nous. La patience révèle que, quoi que nous soyons humains, il y a une dimension de la vie divine en nous. Dieu vit en moi, même si je suis un homme, même si je marche comme ça, je porte des habits faits de mains d'homme, mais en moi, il y a autre chose de divin que Dieu a déposé en moi. Et il le dépose par le Saint-Esprit. Amen. Donc si vous êtes chrétien,
Si vous êtes enfant de Dieu, c'est l'occasion, bien-aimé, alors que nous prierons aujourd'hui, dit Seigneur, Saint-Esprit, toi qui viens déposer et manifester en moi la force de Jésus par la puissance, mais aussi la forme de Jésus par le caractère, viens manifester en moi la patience. Mais il y a des ennemis de la patience, des choses qui empêchent souvent la patience de travailler. Il y en a plusieurs. Pour ce culte, j'ai choisi de ne parler que d'un seul, l'empressement. L'empressement. Être pressé. Être dans une attitude psychologique d'empressement. Cela nous empêche de vivre dans la patience. Regardez dans la Bible, je ne donnerai pas le texte, il est long, le récit du peuple d'Israël avec le veau d'or. Moïse est parti récupérer les tables de l'Alliance, les 10 commandements, et pendant que Moïse est de l'autre côté, Aaron reçoit la pression du peuple. Le peuple lui dit, « Ce Moïse, depuis qu'il est parti, il ne revient pas. » Vous voyez l'impatience? Ils sont pressés. Ils disent, « Non, fais-nous des dieux que nous puissions voir. Nous sommes fatigués de son Yahweh, Elohim, un Dieu très invisible. Non, on veut faire, fais-nous un petit truc là. » Et ils vont prendre des bijoux qui vont fondre pour commencer à adorer un veau d'or, à adorer une idole à cause de l'empressement. Bien-aimés, nous avons besoin que le Seigneur nous donne de vivre une vie sans empressement. Alléluia. Proverbe chapitre 21, le verset 5, dans sa partie B, nous dit que celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Celui qui agit avec précipitation, il arrive à la disette. Et beaucoup de personnes souvent pensent qu'ils doivent accumuler des richesses et le faire en désordre. Ils sont impatients. Voilà pourquoi ils sont prêts à toucher à n'importe quoi. Vous étiez en train de chercher la richesse, vous l'avez cherchée avec précipitation, vous allez plutôt cueillir la disette, la pauvreté absolue. J'aimerais parler des quelques dégâts de l'impatience avant de proposer comment entretenir une vie de patience. L'impatience crée beaucoup de dégâts dans la vie et dans la société. Si vous allez dehors ici, juste devant l'entrée, vous commencez à marcher dans les rues, ou vous allez sur la route, vous rencontrerez des hommes et des femmes impatients. Vous rencontrerez des personnes qui ont pris des mauvaises décisions. Mais j'aimerais préciser quelque chose, qu'il y a deux catégories des conséquences ou des dégâts que l'impatience crée. La première catégorie, je les appelle la catégorie des conséquences réparables. Il y a des conséquences qu'on peut réparer. Vous avez trompé de route, vous étiez pressé, vous n'avez pas vu que c'était sens unique, voilà, vous clignotez, et puis voilà, vous êtes obligé d'aller plus loin. Pour ceux qui sont allés dans les pays où il y a des autoroutes, des fois quand vous perdez une direction, vous pouvez rouler d'ici peut-être jusqu'à Kitambo au magasin pour retrouver le chemin et revenir ici à Lipen et à nouveau aller là où vous deviez partir. Il y a des conséquences que vous pouvez réparer. Il y a des conséquences qui ne changent pas beaucoup de choses. Il y a des conséquences même parce que vous aviez encore du temps, vous aviez encore de l'âge, vous aviez encore des opportunités. Vous pouvez les réparer. Mais bien aimé, que dans la vie, on peut reporter un rendez-vous, mais on ne peut pas reporter une opportunité. L'opportunité se consomme au temps présent, lorsque cela vient. Et combien de personnes ne vivent-elles pas sous le poids des mauvaises décisions, ou d'une mauvaise décision prise à cause de l'impatience? Mais la deuxième catégorie des dégâts de l'impatience appartient à la catégorie des conséquences non réparable ou irréparable. Vous étiez tellement fâché que vous avez pris le fusil, vous avez tiré. La vie est partie dans l'autre. Vous aviez été tellement pressé que vous êtes chamaillé avec votre supérieur hiérarchique et vous êtes parti. Je connais l'histoire d'un jeune homme qui était énervé dans un bureau de travail. C'était un païen, bien sûr, je précise par là, pour que cela ne serve pas de prétexte et non plus de modèle. Il était tellement fâché contre son chef expatrié que ce jour-là, il a tabassé le chef sérieusement. C'était un homme d'une peau claire. Essayez d'imaginer ce qui lui était arrivé. Le monsieur a été rossé très sauvagement. Ils étaient restés jusqu'à des heures tardives en train de travailler, de faire un travail de comptabilité. Mais le chef avait un langage assez discourtois à son égard, pris d'impatience. Il a fait cela, mais on a appelé les policiers. On l'a amené en prison pour coups et blessures. Coups et blessures. Vous vous retrouvez là en prison. Vous aurez pu être patient. Vous aurez dû être capable de vous maîtriser. Il y a des choses, peut-être, vous ne savez plus récupérer. Vous ne savez plus récupérer cette famille qui a été brisée. Vous ne savez plus récupérer parce qu'elle est partie, vous êtes parti. Maintenant que je presse, ça fait 25 ans, 30 ans. Voilà. Vous dites pour vous consoler, bon, chacun fait sa vie. Mais au fond de vous, vous savez que vous aurez pu réagir ou agir autrement. Combien de familles brisées, combien de relations brisées et combien de fautes lourdes n'ont-elles pas été commises à cause de l'impatience? Bien-aimés, la patience, c'est un tout petit mot, mais ses conséquences peuvent être regrettables. Et la pire des conséquences irréparables, c'est la mort éternelle, l'éloignement de Dieu, ne pas hériter la vie éternelle à cause de l'impatience. Vous êtes entré dans la vie de péché. Je me souviens, très jeune, nous évangélisions dans un quartier. Je connaissais un jeune homme avec qui nous avions grandi, donc je lui partageais la parole de Dieu. Je me souviens, il m'a répondu de manière très, très insolente. Il m'a dit, ah, vos histoires d'église là, allez, laissez tomber. Tout nous, on est encore jeunes, on a le sang chaud. Quelque temps après, il est parti en Afrique du Sud, il avait toujours le sang chaud et on l'a assassiné dans une boîte de nuit. Quand la nouvelle est arrivée dans le quartier, les gens pleuraient parce qu'il était mort. Tout le monde disait qu'il était jeune. Mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, il est mort. Il ne te connaissait pas. Et pire, il est mort dans un état, on va dire, où il était tellement éloigné et terrestrement et spirituellement de Dieu. Mon frère, ma sœur, ne joue pas avec le péché. Ne joue pas avec l'instant de plaisir que semble te procurer le péché. Que semble te procurer le fait de transformer les écritures comptables de l'entreprise pour bénéficier de ceci ou de cela, d'un détournement de fonds parce que tu es impatient de finir ton chantier, parce que tu es impatient, tu as vu les autres ce qu'ils ont fait, tu dis non, moi aussi je dois faire. L'impatience, même si les hommes ne la voie pas, il y a une conséquence que Dieu te réserve. Tu peux nous donner l'impression que tu es arrivé dans la vie, mais il y a une conséquence éternelle qui t'attend. Amen. Pour terminer, vous vous posez certainement cette question, comment acquérir et comment développer la patience? Comment est-ce que nous pouvons devenir des hommes patients? La première des choses, c'est par une vie de prière. Il faut apprendre à prier, particulièrement une vie d'adorateur. L'adoration a cette capacité, cette faculté de nous concentrer sur la personne de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas l'adoration. Il y a des gens même qui disent qu'ils s'ennuient dans l'adoration. Mon frère, ma sœur, pendant les moments d'adoration, tu as la capacité de recevoir les dons de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, je ne donnerai pas le texte, la Bible nous dit que lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés par la même image par le Saint-Esprit. Alléluia. La force d'adorer Dieu, l'une des puissances du fait d'adorer Dieu, c'est que l'adoration nous permet de revêtir le caractère de Christ. Plus nous l'adorons, plus nous lui ressemblons. Ce n'est pas seulement qu'il y a un Saint-Esprit, vient, non. C'est bien d'appeler le Saint-Esprit, mais il y a une dimension de la ressemblance à Christ qui ne vient que quand les gens savent adorer Dieu. C'est pourquoi quand vous venez à l'église ou dans vos moments personnels de prière, mon frère, ma sœur, passez du temps dans l'adoration. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, sois un adorateur. La deuxième des choses à faire pour développer plus de patience, c'est de lire ou de méditer la parole de Dieu. Et là, je vais donner un verset pour terminer. Romains chapitre 15, le verset 4. La Bible dit, dans Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, est-ce qu'on peut lire à haute voix, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Amen. Il y a une patience et il y a une consolation que les Écritures donnent. Prends le temps de souvent aime la parole de Dieu, aime lire la Bible, aie une vie disciplinée dans laquelle tu as des moments en face de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, ça va te rendre patient. Il y a des moments où les choses veulent s'empresser en toi, où les hommes autour de toi te disent de faire ceci ou cela. La parole de Dieu a la capacité de te garder, alléluia, de te garder. Souvent, les gens minimisent les temps d'études bibliques, les gens minimisent les réunions d'études bibliques. Quand dans les églises, les gens doivent venir étudier la Bible, ils disent « Ah non, nous on préfère la prière, là-bas il y a le feu. » Nous n'en disons qu'on ne venons pas, dans la prière il y a le feu, mais la prière est prière quand c'est une prière qui est une réaction à la parole de Dieu. Et même, vous allez remarquer que vos prières seront mieux exaucées quand ce sera des prières suivant la parole de Dieu. Et lorsque vous serez en train de lire la parole de Dieu, la parole elle-même vous console. Même quand vous n'êtes pas encore exaucé, même quand la bénédiction n'est pas encore arrivée, le fait que vous êtes tourné vers la parole de Dieu, vous avez la capacité d'attendre. Amen. Il y a une patience, il y a une consolation que donnent les Écritures. Alléluia. Alléluia. Pour finir, j'aimerais que nous puissions relire Habacuc, chapitre 2, le verset 3. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons dit que la patience, Dieu lui-même est patient. Que la patience est bonne dans notre relation avec Dieu. La patience est aussi bonne dans notre relation avec notre prochain. Je ne sais pas si vous avez des promesses de Dieu dont vous attendez l'accomplissement. Habacuc chapitre 2, le verset 3 dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Amen. Nous voulons prier. Nous voulons prier pendant quelques minutes dans quelques directions. Nous allons demander la grâce de Dieu. Peut-être que vous n'avez plus de patience, vous avez perdu patience dans votre vie, dans votre manière de vivre. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce que vous attendez. Je ne sais pas ce qui tarde à venir pour vous. Je ne sais pas ce que vous espérez de Dieu, mais qui n'arrive pas encore. En ce matin, Dieu nous a dit que nous devons apprendre à patienter, avoir la patience. Je m'attends à toi, tu es mon aide précieuse. Ouvre mes yeux. Que je voie comme toi, je m'attends à toi.
chair est pas confuse.
Ouvre mes yeux.
Que ta sagesse me montre le chemin à suivre. Est-ce que, alors que nos amis sont en train de chanter, de proclamer « Je m'attends à toi », tu peux commencer à prier pour toi-même.
Je m'attends à toi.
Et dire à Dieu, Seigneur, j'ai perdu la patience. Je suis devenu un homme impatient, une femme impatient. Impatient par rapport aux promesses de Dieu. Impatient avec mon prochain. Impatient avec mon épouse. Impatient avec mon épouse. Impatient envers celui-ci ou celle-là.
Me montre le chemin à suivre.
Je m'attends à toi, Seigneur. Donne-moi d'apprendre la patience. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, Église? J'aimerais pas faire un appel, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Comme un seul homme. Demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, apprends-moi à être un homme patient. Apprends-moi à compter sur toi. Et à être ferme dans ma conviction. J'aimerais me tourner vers toi à chaque instant. Que rien ne trouble ma foi.
Me montre le chemin à suivre.
Je demandais au pasteur Alain de venir prier pour nous, de nous recommander à Dieu.
Je t'aimerai, ô Dieu, ma force. Je t'aimerai.
Je t'aimerai, mon bouclier.
Toi, le rocher des âges, Seigneur.
Je t'aimerai, mon rocher.
Pour toujours à jamais.
Pour toujours à jamais. Alléluia.
Nous avons nos yeux fermés. J'aimerais faire quelques appels. Premièrement, vous ne marchez pas encore avec le Seigneur. La patience n'est pas dans votre cœur. Vous voulez avoir un cœur véritablement patient. Mettez la main sur votre cœur là où vous êtes. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez peut-être commis beaucoup de dégâts par manque d'impatience. Et aujourd'hui, vous criez, Seigneur, je veux être patient. Vous regardez le passé, vous regrettez certaines décisions. Vous aussi, mettez la main sur votre cœur. Nous allons prier ensemble. Vous réalisez que vous êtes sur un chemin de raccourci. À cause de vos raccourcis, vous commettez des dégâts à gauche et à droite. Et vous êtes encore dans ce chemin de raccourci. Vous savez ce que vous vivez présentement et ce que vous faites subir aux uns et aux autres à cause des raccourcis que vous êtes en train d'emprunter. Levez-vous vous aussi. Dites au Seigneur, Seigneur, aide-moi à sortir de ce piège dans lequel je suis enlacé. Vous êtes impatient envers votre épouse. Vous êtes impatient envers votre époux. Vous pouvez dire aussi, Seigneur, aide-moi. Viens à mon secours. Oui, certainement. En enfer, il y aura beaucoup d'impatients, beaucoup trop d'impatients. Tu peux dire au Seigneur, viens et sauve-moi, sauve ma vie. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur dans ton cœur, c'est difficile d'être patient sans le Seigneur. Tu peux dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, viens dans ma vie, pardonne. Cette vie de précipitation, pardonne cette vie de raccourci, pardonne les dégâts que j'ai occasionnés autour de moi, pardonne les personnes que j'ai mises en difficulté, pardonne peut-être les foyers d'autrui que j'ai mis en difficulté à cause de mon impatience. Seigneur, je te prie pour ces paroles qui nous ont été dites. Tu es capable, Père, par la puissance de l'Esprit, de faire écho dans chaque cœur. Tu es capable de libérer et de nous apprendre à être patients. La patience, c'est ton caractère. La patience, c'est ta marque. La patience, c'est ta vie, dans nos vies. Saint-Esprit, saisis-toi de chacun de nous et apprends-nous à rechercher cette qualité. Même les hommes du monde disent que la patience est amère, mais ses fruits sont doux. Seigneur, visite-nous. Donne-nous des cœurs patients envers notre prochain, des cœurs qui savent attendre pour atteindre divers objectifs que tu places devant nous. Merci de bénir ta parole dans chaque cœur et merci de bénir et d'arroser ton serviteur au nom de Jésus. Père, nous te confions ce moment. Nous voulons t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Daigne bénir la main qui donne, ô Seigneur, et te souvenir de celle qui n'a pas aujourd'hui et qui désire s'offrir à toi et avoir quelque chose pour les prochaines occasions. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.